Nous étions dans le cadre d'une utilisation sécularisée du religieux. On voit qu'ici, le religieux retrouve sa vocation totalisante à travers une triple construction mémorielle, rituelle et normative. Alors, tout cela renvoie à un concept que notre ami Alain Dikoff aime beaucoup utiliser, qui est le concept de fondamentalisme. J'espère ne pas me tromper. Et c'est peut-être sur ce terrain que maintenant Alain va nous entraîner à partir d'une intervention sur les partis religieux en Israël.
Merci beaucoup Philippe, et je suis heureux en effet d'être là cet après-midi pour présenter quelques éléments de réflexion sur les partis religieux juifs. Comme vous l'avez vu dans les résumés qui ont été joints au dossier, mon intervention s'intitule « En quel sens les partis religieux juifs en Israël sont-ils religieux ?» Alors, peut-être pour très rapidement un petit peu placer quand même la question des partis religieux dans la configuration un peu plus large des partis israéliens, avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement familier. Ça me semble évidemment important de mettre un peu ce background d'abord sur la table. C'est que, bien évidemment, les partis religieux ne sont que une partie de l'offre politique en Israël. Vous avez un certain nombre de partis qui sont représentés au Parlement, et je partirai un petit peu de la représentation parlementaire. Parce que même si nous savons tous que se sont développées au cours des 20-25 dernières années beaucoup d'autres formes de participation politique dans les démocraties modernes, hein, les référendums, les forums, etc., malgré tout, les élections restent quand même un rendez-vous important et en ce sens-là, un moment, je crois, qui reflète bien les tendances à l'œuvre dans la société. C'est encore plus vrai dans le cas israélien, puisque le système électoral fonctionne à la proportionnelle quasi intégrale. Bon, il y a un seuil pour être représenté qui est de 3,25% depuis 2015. Mais malgré cela, c'est quand même une proportionnelle qui donne une bonne photographie, disons, de l'évolution de la non seulement des partis finalement, mais derrière les partis de la société israélienne. Alors, grosso modo aussi, pour un peu juste replacer un petit peu un élément de contexte qui me paraît important. En ce qui concerne la représentation parlementaire, la Knesset, donc le Parlement israélien, comporte 120 députés. Et elle est répartie évidemment en différents partis politiques, en différentes formations. On pourrait dire aussi en différentes familles politiques, même si c'est... Dans d'autres pays, c'est vrai aussi, mais peut-être que là, c'est un petit peu plus compliqué de classer les partis sur un axe droite-gauche, même si ça a aussi un certain sens, mais pas totalement. Mais toujours est-il que sur les 120 députés à la Knesset, aux dernières élections de 2015, hein, la droite avait 54 députés, le centre et la gauche 40, les partis ultra-orthodoxes juifs sur lesquels je vais revenir 13 et les partis arabes 13. Dans le fond, il n'y a pas des variations énormes au cours des 15 dernières années, même si on parle, et quelque part ça n'est pas faux, d'une droitisation de la société israélienne, l'équilibre global des forces au cours des 15 dernières années n'a pas été énormément transformé, malgré tout. Il y a évidemment des variations, mais pas de changement véritablement dramatique. Alors si j'en viens plus précisément au parti religieux juif, alors je dis pourquoi je dis juif, après je ne dirai plus, parce que il y a aussi dans les formations arabes en fait un parti, plus spécifiquement la liste arabe unifiée, qui est en fait un parti islamiste aujourd'hui et qui a donc aussi des représentants à la Knesset, mais qui fait partie depuis 2015 d'une seule liste commune pour augmenter la représentation représentation des Arabes en Israël. Donc il y a aussi une forme de parti religieux musulman, hein, très clairement, mais dont je ne parlerai pas ici. Je me concentrerai sur les partis du groupe dominant, à savoir les partis juifs, qui sont au nombre de trois depuis déjà pas mal de temps maintenant. Quand je dis pas mal de temps, ça veut dire, pour être précis, 35 ans maintenant. Depuis 35 ans maintenant, il y a trois partis pour l'essentiel. Qui ensemble, bon, le nombre de sièges à la Knesset peut varier évidemment selon les élections, mais ça va entre 21 sièges et 30 sièges. Donc vous faites rapidement le calcul, puisque les 120 députés, eux, il y a toujours 120 députés, ça ne change pas, même si la population a augmenté énormément depuis 1949, ça fait quand même qu'on est entre 15 et, disons, 17 et 25% de députés qui appartiennent à des partis religieux. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ces partis religieux, je vais aussi préciser cela, sont aussi des partis qui, depuis maintenant un certain nombre de décennies aussi, depuis maintenant trois décennies, c'est pas rien, sont assez systématiquement alignés politiquement pour la constitution des coalitions avec la droite nationaliste non religieuse, stricto sensu, mais avec la droite représentée évidemment par le Premier ministre actuel, en particulier donc Benjamin Netanyahou. Alors, ces partis, ils sont donc les partis religieux, stricto sensu, ils sont donc au nombre de trois depuis à peu près une trentaine d'années. Le parti le plus ancien, même s'il a connu un certain nombre de mutations, c'est celui qui s'appelle aujourd'hui le Foyer juif. C'est un nom qu'il a adopté il y a à peu près une dizaine d'années, mais c'est un parti assez ancien, puisqu'il a été créé en 1902 en diaspora, avant d'être importé, si je puis dire, en Israël avec les immigrants. Ensuite, le parti qui a été créé par la suite, c'est le parti Yahdut HaTorah, donc le parti unité de la Torah, qui a été créé en 1912, lui aussi en diaspora, et qui est un parti ultra-orthodoxe. Et enfin, le plus récent des partis, c'est le parti Chasse, puisque lui, il a été créé en 1984, donc c'est beaucoup plus tard par rapport aux autres, et qui regroupe, enfin, qui est un parti ultra-orthodoxe séfarade, donc représentant les juifs venant des pays d'islam. Donc, entre ces trois partis, aux dernières élections, donc 2015, le parti du foyer juif avait 8 députés, le parti Yahdut HaTorah, Unité de la Torah, 6, et le parti Chasse, 7. Voilà, donc vous faites le calcul, hein, vous arrivez à 21 sièges, ce qui est une régression, hein, enfin une baisse par rapport aux élections de 2013, hein. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'écart, puisque en 2013, les trois mêmes partis avaient 30 députés. Donc il y a une baisse, mais liée à tout un tas de variations sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais disons, ces trois partis sont là depuis maintenant, donc 1984, date à laquelle le Chasse a été créé, et les deux autres sont là depuis bien plus longtemps, comme je l'ai dit. Alors, en quel sens, j'y viens, ces partis religieux sont-ils précisément religieux? Alors, à mon sens, ils le sont pour trois raisons. D'abord, parce qu'ils défendent des valeurs religieuses. Ensuite, parce qu'ils ont une organisation assez singulière qui donne du poids aux clercs, aux représentants de la religion, au sein du parti. On le verra de façon un peu différente. Bon, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vous donnerai au moins quelques éléments de cela. Et enfin, religieux aussi, parce que leur base électorale est constituée de juifs qui, de différentes façons, se définissent comme religieux. Voilà. Donc, en ce sens-là, oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a bien des partis religieux juifs, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, sur le plan des valeurs, si on regarde Il y a des petits signes qui sont assez intéressants. Hein. C'est déjà tout simplement le nom des partis, hein, qui donne déjà une indication de ce sur quoi ils mettent l'accent. Le foyer juif, bon, on peut dire que c'est peut-être pas hyper clair, mais il y a quand même le nom ancien du parti, c'était le Parti National Religieux. Bon, donc il affirmait clairement sa dimension religieuse, mais aussi nationale. Et le slogan de fondateur du parti est déjà, je dirais, assez symptomatique, hein, de cette orientation-là. C'est le peuple d'Israël, la terre d'Israël, selon les règles de la Torah d'Israël, donc du texte religieux. Ça, c'était le slogan du originel du Parti National Religieux. Donc le foyer juif est une variation, c'est pas tout à fait le même parti, il y a eu des changements, j'en donnerai quelques indications par la suite, mais il est clairement, il affiche une identité religieuse évidente. Le parti Yahrtout HaTorah, donc, qui est le parti des ultra-orthodoxes ashkénazes, donc des juifs originaires d'Europe centrale, est en fait, c'est pas vraiment un parti en réalité, c'est une liste qui unit deux partis, le parti Agudat Israël, donc l'Union d'Israël, et un parti qui a été créé beaucoup plus tardivement, en 1988, qui s'appelle Degel HaTorah. Ça aussi, le terme est assez significatif pour ceux qui éventuellement comprennent l'hébreu. C'est le drapeau de la Torah. Bon, c'est le drapeau de la Torah, donc ça veut dire, évidemment, le drapeau, on voit un peu la dimension un peu militante. Hein. C'est un peu l'emblème du parti, c'est la Bible et tous les commentaires qui vont avec. Et le parti le plus récent, le parti Chass, c'est le parti donc des séfarades qui respectent la Torah. Voilà, ça c'est le déroulé du sigle hébraïque, que, si on le traduit en français, donc les séfarades qui respectent la Torah, donc c'est, on voit aussi une proclamation très très claire. Donc il y a des différences entre eux, à l'évidence, mais il y a quand même un socle sur lequel ils s'entendent, c'est qu'ils défendent le judaïsme vraiment comme une orthopraxie, comme une pratique. Il faut que les juifs respectent les commandements religieux. Hein, dans le judaïsme, il y a 613 commandements. Ces commandements, à la fois négatifs et positifs, il faut les respecter. Ça veut dire que tous ces partis, évidemment, militent pour enjoindre en quelque sorte, hein, aux juifs de respecter les prières quotidiennes, de respecter évidemment les règles alimentaires juives, de ne pas travailler le Shabbat, etc. Donc ils défendent finalement le judaïsme normatif, hein. Très clairement, ça fait partie de leur feuille de route, hein. Ils défendent le judaïsme normatif et c'est ça qui fait à l'évidence leur singularité par rapport à d'autres partis en Israël, disons des partis, on pourrait dire, entre guillemets, laïques, hein, qui ne défendront pas cette philosophie-là. Alors, ils peuvent évidemment se séparer dans leur rapport à la tradition. Par contre, les autres partis, je pense en particulier aux deux partis généralistes qui subsistent encore en Israël, c'est-à-dire le parti travailliste d'un côté et le Likoud de l'autre, donc le parti de droite, il est évident que le premier est plus détaché globalement de la tradition religieuse que le Likoud, mais même le Likoud ne défend pas ce type de valeur intrinsèquement. Il ne dit pas que les soutiens du Likoud doivent être des juifs pratiquants. Non. Mais là, par contre, à l'inverse, les trois partis que j'ai évoqués, ils ont clairement ça dans leur message qu'ils martèlent régulièrement lors des élections. Donc, les valeurs pour commencer. Ensuite, la question de l'organisation. La question de l'organisation, elle montre une singularité de ces partis par rapport à d'autres partis. Encore une fois, par rapport aux partis séculiers, les partis, disons, classiques en Israël fonctionnent un peu comme les partis. Alors, il y a des variantes, hein, les noms peuvent changer, mais grosso modo, c'est un petit peu comme les autres partis, c'est-à-dire qu'il y a des conventions ou des congrès, un comité central, un comité exécutif, un secrétariat. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au Parti travailliste et la même chose au Likoud. On ne trouvera pas ça dans les partis religieux. Même si, et je vais le montrer dans une seconde, il y a des différences entre eux. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon, mais il y a quand même aussi des points de convergence. Il y a à la fois des divergences et des convergences entre eux et par rapport aussi aux partis séculiers. La différence la plus nette, elle est du côté des partis ultra-orthodoxes, c'est-à-dire du parti Chasse et du parti, ou plutôt de la liste Unité de la Torah. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il n'y a aucun système d'adhésion, on n'est pas adhérent de ces deux formations, voilà, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien de tout cela. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des groupes parlementaires, hein, puisque, comme je l'ai dit, ces deux partis ont ensemble, en tous les cas, 13 sièges, hein, 6 pour le judaïsme unifié de la Torah et 7 pour le parti Chasse. Donc il y a des députés qui sont tous religieux, hein, reconnaissables en particulier parce qu'ils sont habillés en noir de la tête aux pieds, ils sont tous des hommes, hein, et ils sont souvent tous des rabbins, hein, ou en tous les cas ils ont une formation religieuse. Hein. En même temps, et ça c'est pas non plus inintéressant, le groupe parlementaire est finalement a assez peu d'importance. Alors il compte quand il s'agit de voter, évidemment, parce que c'est les 6 députés en question qui vont voter. Mais en même temps, il a assez peu d'importance parce que ça n'est pas le groupe parlementaire qui prend les décisions. C'est le Conseil des sages de la Torah, qui est une formation en fait regroupant les rabbins les plus versés dans l'étude des textes, qui vont finalement donner les consignes, qui vont dire bah voilà, sur ce texte il faut voter ça, sur ce texte il faut voter ci, etc. On va rentrer dans la coalition, on va pas rentrer. C'est pas le groupe parlementaire qui décide, c'est un groupe secondaire dans le fond. Hein. Et en général, les gens les plus importants ne sont pas dans le groupe parlementaire, mais bel et bien à l'extérieur. Ça, c'est différent malgré tout dans le parti Habaretz HaYehudi, dans le parti du foyer juif. Hein. C'est différent un peu sur les deux plans en réalité. Hein. Donc on voit que le PNR, enfin le Parti National Religieux et son dernier avatar, est un peu un parti un peu mixte. En réalité, dans la mesure où, là, pour le coup, d'abord, le chef du... Il y a un vrai parti, avec des conventions, etc. Il y a un vrai chef du parti, qui est aussi présent à la Knesset, qui s'appelle Naftali Bennett, et qui est aujourd'hui, par exemple, un des ministres importants du gouvernement Netanyahou. Les membres de la fraction parlementaire qui sont donc aujourd'hui aussi au nombre de 8, c'est clair qu'il y a des rabbins là-dedans, hein, parmi les 8, mais ils ne sont pas tous religieux. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a même une femme parmi ces 8 qui n'est pas une femme religieuse, hein, qui est elle-même d'ailleurs ministre de la Justice aujourd'hui dans le gouvernement israélien. Donc on voit qu'en termes de sexe, c'est déjà très différent des partis ultra-orthodoxes à l'évidence. Et le poids de la faction parlementaire dans les décisions est un point réel. Hein. C'est-à-dire, c'est pas comme pour les ultra-orthodoxes qui finalement font grosso modo de la figuration. Là, la faction parlementaire joue un vrai rôle. Mais en même temps, il y a aussi quand même une influence forte des rabbins à l'extérieur, hein, donc qui sont liés au parti d'une certaine façon et qui impriment un peu aussi leur marque aux décisions politiques prises par le parti. C'est pas les mêmes rabbins que ceux qui sont dans les proches de l'autre. C'est une dimension, disons, nationaliste beaucoup plus forte. Mais il est très clair que ces rabbins jouent aussi un rôle assez important dans la ligne politique, finalement, qui est définie par le parti. Mais, on le voit, c'est un parti qui est, quelque part, comme je l'ai dit, en effet, un parti un peu mixte, hein, et qui a d'ailleurs eu tendance à accroître un peu cette mixité, pas seulement en termes de répartition homme-femme, mais dans la trajectoire un peu des gens qui sont membres de ce parti. Il a une vocation plus inclusive, c'est assez évident. Il a une vocation plus inclusive que les deux autres. Et ça se retrouve dans le troisième point que je veux évoquer, c'est-à-dire la question du soutien électoral à ce parti. Bon, là, je me base sur quelque chose d'assez classique. C'est dommage, j'aurais dû penser, plutôt avoir le temps de vous montrer au moins une carte, faire un peu rapidement de géographie électorale. Vous verriez ça de façon assez nette. On voit en effet que la différence que je viens d'évoquer entre les partis strictement ultra-orthodoxes et le parti orthodoxe, disons, du Parti National Religieux, du foyer juif, on le voit aussi au niveau de l'électorat. puisque en effet le foyer juif, dans le fond, a une répartition électoralement sur, alors sur, je dirais grosso modo, si on le voit en moyenne, hein, évidemment, si on regarde dans le détail, on verra qu'il y a des différences, mais en moyenne, un peu sur l'ensemble du territoire. Hein, et on le voit aussi bien au nord qu'au sud, à Jérusalem, à Tel Aviv, avec bien sûr des différences. Hein, c'est sûr qu'il y a des différences, mais il y a quand même une répartition un peu sur l'ensemble de l'espace national, avec bien sûr. Plus de poids quand on a une focale plus précise, évidemment dans des quartiers où cette population est plus représentée démographiquement. Hein. Donc dans certains quartiers de Jérusalem, par exemple vers le Beit Vagan et tout ça, du côté de Jérusalem Ouest, là vous êtes dans un quartier de juifs, de sionistes religieux, il est évident que là on peut repérer, si on regarde le vote par bureau, un vote assez fort pour le foyer juif. On voit aussi, de façon très très nette, un vote très important pour le foyer juif dans l'ensemble des implantations juives en Cisjordanie. Donc là, il y a un vote très important pour le PNR, pour le Parti National Religieux, à peu près 30% de l'électorat juif, donc dans les colonies en Cisjordanie, vote pour le PNR. Et donc ça, là il y a un électorat extrêmement fort et extrêmement mobilisé. Pour les deux autres partis, on voit que c'est plus localisé. Le vote pour le Chass et le vote pour le Parti Unité de la Torah est beaucoup plus localisé et est vraiment lié à des lieux précis où cette population réside. Alors c'est vrai en particulier de Jérusalem. Hein, lors des dernières élections, le premier parti à Jérusalem, c'est le parti Agudat Israël. Hein, c'est le parti qui a le plus de voix, ce qui montre donc évidemment l'importance de ce judaïsme orthodoxe, ultra-orthodoxe, à Jérusalem. Il a eu beaucoup plus de voix que le Likoud et ensuite le Chass qui est venu en troisième position. Il est aussi très présent dans certaines localités où les ultra-orthodoxes constituent quasiment 95% de la population, comme aux alentours de Tel Aviv, à Bnei Brak, où deux tiers des votes se sont portés sur le parti Agudat Israël. Dans le fond, là, ça c'est aussi à mon avis assez intéressant, c'est plus un vote individuel en réalité. Évidemment, les gens votent individuellement, mais en réalité, ils votent tous de la même façon. Parce que les consignes de vote sont données par les rabbins, en fait, et ils n'ont même plus besoin de donner les consignes, parce qu'ils sont tous complètement socialisés dans ce milieu-là. Leur parti, c'est Agudat Israël. Ils voteront jamais pour un autre parti. Bon, ça, c'est clair. Le Chass, c'est un peu différent, parce que là, c'est un parti où on voit aussi une forte localisation, par exemple à Jérusalem, pas dans les mêmes quartiers qu'Agudat Israël, mais ça peut parfois être dans les mêmes quartiers. Mais on voit aussi un vote qui est présent un peu dans le sud, parce que le Chass n'a pas un électorat, c'est ça qui fait aussi sa spécificité, purement ultra-orthodoxe. Il y a aussi des séfarades qui vont voter pour le parti Chass dans une logique un peu de plus de traditionnalisme religieux que stricto sensu d'orthodoxie. Et donc là, on voit quand même malgré tout des nuances hein, entre ces deux partis ultra-orthodoxes. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout dire, je crois, mais j'ai dit, bon, pas vraiment le point central de ce que je voulais dire, simplement, en guise un peu de conclusion, ce sont, en effet, ces trois partis sont des partis qui, à bien des égards, sont des partis fondamentalistes, oui, je crois, parce qu'ils défendent une version du judaïsme, on pourrait dire intégrale. Hein, ma voisine parlait de un peu de vision totalisante. Bon, là, on est un peu dans le même type de registre, c'est-à-dire que la religion devrait, en tous les cas, hein, avoir gouverner tous les aspects de la vie des individus juifs et la religion constitue quelque part une sorte d'absolu hein, auquel il faudrait se conformer, même si, et ça c'est assez clair aussi, il y a une différence entre ces partis dans la façon dont ils vont ensuite gérer ce rapport à ces fondements du judaïsme avec un rigorisme plus ou moins accentué selon les partis. Et ce qui est aussi important, je crois, bon, ça va être mon dernier mot, on pourrait éventuellement revenir sur ça dans les questions et dans le débat qu'on peut avoir, c'est que ces partis sont aussi des partis qui, dans le rapport à la démocratie, sont dans une position qu'on pourrait qualifier grosso modo d'instrumentale, c'est-à-dire que dans le fond, ils ne reconnaissent pas une vraie validité au système démocratique. Parce que leur norme, c'est le judaïsme normatif. Et donc, s'il y a in fine un choix à faire entre la norme de l'État, y compris celle votée par le Parlement, et la norme religieuse, il est très clair que la norme religieuse doit prévaloir. Et ça, avec des nuances, il y a quand même un assez grand accord entre ces trois parties sur cette question de l'importance suprême de la norme religieuse par rapport à la norme démocratique. Voilà, je m'arrête là.
Bien, merci beaucoup, cher Alain, pour cet exposé qui prolongeait l'exposé immédiatement précédent autour d'un fondamentalisme qui se décline cependant suivant différentes figures. Une figure qui accepte davantage le compromis avec la démocratie, en tout cas avec la démocratie procédurale, même si sur le terrain de la démocratie substantielle se marque toujours un écart. Et puis une autre tendance, celle qui se manifeste autour d'Agudat Israël, pilier du bloc de la foi, une tendance qui, au contraire, marque à la fois sur le plan procédural et sur le plan substantiel une véritable distance avec la démocratie telle qu'elle se vit en Israël et telle qu'elle se pense dans son épure. Alors voilà donc un certain nombre de points, je trouve, extrêmement intéressants qui donneront lieu tout à l'heure à un débat dans le cadre de cette session.